Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Cette semaine, on parle beaucoup des CHSLD, la chaleur accablante qu'il y a là. On est en canicule déjà en mai. Mais comment ça? Pourquoi les CHSLD ont pas de la climatisation? C'est comme si l'hiver, il n'y avait pas de chauffage. On s'entend que ces gens-là sont vulnérables. Il y a une réelle problématique. Moi, ça me choque. Je voulais parler à un avocat à propos de ça, savoir c'est quoi les droits, pourquoi on accepte ça en tant que société. Je suis avec Maître Patrick Martin-Ménard, de Ménard Martin Avocat, qui est avec moi. Bonjour, Maître Martin-Ménard.
Bonjour.
Merci d'être là. C'est un sujet très, très sensible. On parle de climatisation, mais est-ce que c'est normal? Quand on parle de droits donnés aux aînés, là, est-ce que c'est normal ce qui arrive là?
Non, absolument pas. D'autant plus que c'est une problématique qui est connue depuis très longtemps. Hein. C'est pas cette année ou l'an dernier qu'on a découvert que il y avait une majorité des chambres en CHSLD qui n'étaient pas climatisées. Mm-hmm. Ça s'inscrit de façon plus large dans le cadre de la négligence vraiment systémique qu'on voit à l'endroit des CHSLD là, qui durent depuis plusieurs années. Donc,
expliquez à nos auditeurs la négligence systémique. C'est intéressant. Là. On reconnaît le mot système là-dedans, mais si vulgarisez-nous ça. Là, c'est quoi la négligence systémique?
Ben, c'est en fait là, le fait que le système de soins de longue durée au Québec est depuis plusieurs années sous-financé, pratiquement laissé à l'abandon. Là. Essentiellement, on a donc des infrastructures qui sont vétustes, qui sont inadéquates, et on a de gros problèmes de manque de personnel, évidemment, dans un contexte où la clientèle augmente de plus en plus dans ces centres-là aussi. Donc, c'est une combinaison de facteurs.
Avec cette négligence-là qui vient du système, que bon, les gestionnaires de CHSLD ont, en quelque sorte, doivent vivre avec ça. Est-ce que c'est une excuse, disant, ben, regardez, le système, ça va pas bien, donc on fait pas d'effort pour climatiser ou aider? Là?
Non, absolument pas. Absolument pas. C'est quelque chose qui, en fait, qui aurait dû, tant qu'à moi, être fait il y a de cela plusieurs années. Mmh. On a vu déjà, l'été dernier, la canicule qui a mené à un sombre bilan, notamment au niveau des CHSLD, là, donc une clientèle déjà vulnérable qui se retrouve dans des chambres qui ne sont pas climatisées à plus que, quand il fait plus que 30 degrés dehors, c'est clair que ça c'est des conditions qui ne sont pas acceptables. Là, en plus, cette année, on se retrouve dans le contexte de la COVID. Là, on vient là, bon, on a des explications du gouvernement qui nous disent, ouais, on n'a pas vraiment pu mettre en place le plan dans les derniers mois parce que les CHSLD étaient confinés. Ouais. D'accord, mais c'est pas un problème qui est nouveau, c'est un problème qui date de longtemps et on se retrouve dans une situation où cet été, dans un contexte encore plus vulnérable, ces gens-là vont se retrouver confinés à l'intérieur dans des lieux qui ne sont pas climatisés.
Oui, c'est très grave.
C'est inacceptable.
Non, c'est inacceptable. Et à quelque part, il y a des responsables pour ça. Il y a une responsabilité. Là, on dit le système, on dit les centres n'ont pas fait ce qu'il fallait. Où ils s'engagent dans la responsabilité? Est-ce que le gouvernement peut être poursuivi s'il y a un décès dans un CHSLD? Est-ce que il y a des poursuites possibles dans ce domaine-là?
Oui, pour nous, il est clair que l'obligation là, de donner une chambre climatisée s'inscrit dans le cadre des obligations des établissements et des CHSLD en vertu de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Là. Donc, ils ont des obligations légales qui ne sont pas respectées présentement.
OK, donc cette obligation-là est déjà dans la loi. C'est un peu sous forme, c'est pas écrit, ça doit être climatisé, mais ils doivent être dans des conditions adéquates, là, je veux dire.
Absolument.
C'est un peu ça, le général. Et est-ce qu'il y a une différence entre les CHSLD publics et privés, dans le sens que le bon public, c'est le gouvernement, privé, c'est plus... est-ce qu'il y en a qui pourraient dire, ben c'est pas climatisé parce que la personne, le client ne paye pas assez, par exemple, donc paye pas assez cher de loyer?
Absolument pas.
OK, non, ça...
Absolument pas. Les patients du système de santé dans leur ensemble ont des droits en vertu de la loi sur les services de santé et services sociaux, et par ailleurs aussi, en dehors de ça, sont également titulaires de droits fondamentaux, là, dont le droit à la vie et à l'intégrité, okay, à la sécurité de leur personne, et le fait d'être placé dans des conditions comme ça, alors qu'ils sont dans des situations de vulnérabilité, va clairement à l'encontre de ces droits-là.
Mm-hmm. Donc, vulnérabilité, mais pourquoi on a fait ça? C'est une négligence en se disant que la chaleur n'était pas si dommageable?
Ben, je vous dirais, ça vient du fait aussi qu'il y a plusieurs des infrastructures de CHSLD qui sont complètement vétustes, qui battent en fait là, d'une autre époque. Il y a une question là-dedans de configuration des immeubles, il y a une question de systèmes électriques qui n'ont pas la capacité de soutenir déjà des unités d'acclimatisation individuelles pour chacune des chambres. Et donc, on a finalement laissé le problème prendre une très grande ampleur de telle sorte que maintenant, on ne peut le corriger à court terme. On se retrouve devant une situation comme ça.
On ne peut pas le corriger. Puis à vous entendre, je comprends bien qu'on ne peut pas seulement dire, ben écoutez, on n'est pas capable de remédier à la situation. Le pas capable ne va pas exclure le gouvernement ou les CHSLD d'une responsabilité là, vis-à-vis de ça. Là.
Non, dans la mesure où ça fait plusieurs années que ça dure, puis s'il y avait réellement une volonté politique de régler ce problème-là, on aurait pu le faire il y a longtemps déjà. Là, on se retrouve aujourd'hui dans une situation, on ne peut pas dire demain matin, on va climatiser l'ensemble des chambres. Ça prend des travaux, je vous dirais, approfondis, là, bon, au niveau électrique, au niveau des bâtiments. Puis à cause d'une mauvaise planification, d'un manque de volonté politique, on se retrouve dans cette situation-là.
Mais bon, vous connaissez bien, vous faites beaucoup de droit médical à votre cabinet. Est-ce que ça prend des fois pour que ça bouge? Parce qu'on en parle beaucoup, comme vous l'avez dit, il y a eu des canicules, il y a eu des morts, c'est nouveau. Puis là, en plus de la COVID, mais ça n'a pas été fait. Là. On n'a pas mis l'énergie, l'argent pour que ça se règle. Bon. Est-ce que des fois, ça prend un exemple, une condamnation en cours pour faire changer des choses? Est-ce que ça prend l'intervention des tribunaux dans ce dossier-là?
Je pense que les tribunaux peuvent effectivement jouer un rôle. Plus largement que ça aussi, je pense que c'est aux citoyens, c'est aux proches des gens en CHSLD de se lever, puis de demander des comptes au gouvernement. Et on est quand même dans une démocratie, donc justement, je pense que le gouvernement a des comptes à rendre à la population par rapport à ça. Puis oui, les tribunaux, évidemment, peuvent jouer un rôle. Nous, on espère toujours ne pas avoir à se rendre là, mais s'il faut qu'on le fasse, on va le faire.
OK, je comprends bien. Évidemment, c'est un dossier que vous surveillez de près. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que... Est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir une action collective pour ce genre de dossier-là? Là?
Il faudrait évidemment regarder les faits spécifiques pour voir si ça s'y prête. Une action collective, bon, on parle beaucoup d'action collective, mais c'est pas non plus, je vous dirais, c'est pas toujours approprié. C'est pas la panacée, en fait, là. Donc, ça prend vraiment un nombre de facteurs qui sont réunis. Mais c'est tout à fait une possibilité si on peut établir, par exemple, que le gouvernement a commis une faute qui a affecté de la même façon un groupe défini de personnes. Ça peut s'y prêter.
Je comprends. Parce qu'il y a des situations qui sont graves, là, qui peuvent amener à des poursuites. Si on vient à penser ou à avoir la preuve que quelqu'un est décédé de chaleur. Là. Et là, évidemment, le pire des dommages, là, il y a des dommages à la famille. Mais est-ce que de subir ça pour ces aînés-là, parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont décéder ou ce qu'on ne souhaite pas, mais de subir ça, c'est ce que si on est presque à la maltraitance de laisser quelqu'un à la chaleur comme ça? Il y a un certain dommage, même si on n'est pas malade ou on ne décède pas de ça, là.
Absolument, absolument. Moi, pour moi, une personne qui est laissée à la chaleur dans une chambre à plus de 30 degrés, d'une personne âgée, vulnérable, pour nous, c'est clairement une situation de maltraitance.
OK, je comprends. Et quand je parle d'intervention des tribunaux, parce que le politique, on voit clairement que ça n'a pas été une priorité. Bon. On a vu dans certains cas, moi j'ai vu des jugements de certaines cours, il pourrait y avoir des décisions s'il y a des actions qui sont prises, non seulement de dédommager pour un préjudice que quelqu'un pourra avoir avec tout ça, là, on connaît ça, mais d'ordonner de je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce que le tribunal ordonne au gouvernement de régler cette situation-là ou…
Oui, ben c'est ça. Là, c'est un autre type de recours qu'on appelle une demande d'injonction. Mm-hmm. Mais oui, effectivement, par exemple, on arrive à prouver certaines choses, notamment au niveau du préjudice qui est suivi, au niveau de la balance des inconvénients, il y a moyen de forcer le gouvernement ou un établissement spécifique à remédier à la situation.
Je comprends. Donc, le tribunal pourra ordonner de remédier et donner, comme on a vu dans d'autres dossiers, là, comme on l'a vu dans l'aide médicale à mourir, justement, vous étiez dans ces dossiers-là avec Mme Gladue. Donc, de dire, je vous donne tant de temps pour remédier à la situation parce qu'on touche aux droits et libertés, ça peut être considéré comme de la maltraitance.
C'est ça. Dans le cas, par contre, de l'aide médicale à mourir, là, on contestait la validité constitutionnelle de certains articles du code criminel puis la loi provinciale. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais le résultat honnête, ça avait été ça. C'est que nos clients ont pu avoir accès à l'aide médicale à mourir.
Et il y avait eu un délai pour remédier à la problématique que vous aviez soulevée. C'est un peu ça. Puis donc, on peut faire un parallèle. Il y a une problématique soulevée, évidemment, puis c'est la chaleur, mais on a vu durant la COVID-19 beaucoup d'autres choses, malheureusement. C'est sûr que moi, je voulais en parler à l'émission parce que je ne peux pas croire qu'une société, nos aînés, c'est important qu'ils soient bien traités. C'est difficile d'apprendre qu'ils sont dans ces conditions comme ça. Merci beaucoup, Maître Patrick Martin-Ménard, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se reparlera. On va suivre ça de près du cabinet Ménard-Martin. Merci, bonne journée.
Merci.
Bye-bye.
Merci, au revoir.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
On revient sur l'affaire Huawei, Meng Wanzhou, qui finalement, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à faire la différence, hein, la Cour suprême Colombie-Britannique, c'est pas la Cour suprême du Canada.
Non.
C'est comme la Cour d'appel au Québec. Bon, vous avez reconnu M. Boily qui est là. Donc, il a tranché cette semaine, qu'on devra justement extrader Madame Meng Wanzhou, donc c'est décidé. On doit procéder à son extradition, Matt Boily, c'est ça?
Oui, bien, c'est là. Il faut comprendre que d'abord, il y a une possibilité d'appel à la Cour suprême du Canada, elle a 30 jours. Bon. Mais la décision qui a été rendue cette semaine par, vous avez raison de dire, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui n'est pas la Cour suprême du Canada, mais qui est comme la Cour d'appel du Québec. Donc, c'est le plus haut tribunal de la Colombie-Britannique. Une juge a tranché et a... Il n'y a pas une grande surprise. Là. Je tombe pas en bas de ma chaise. Madame Wangzhou, qui se trouve être la fille du président de Huawei, là, c'est quand même pas rien. Elle est directrice financière, mais je pense qu'elle est pis bien placée. Là, elle a un petit bracelet en passant sur le bas de la jambe gauche, là, parce qu'elle est sous surveillance. Mais là, elle pourrait être extradée aux États-Unis. Et effectivement, ben le problème, là, c'est qu'on est en, on a une petite COVID là, pendant ce temps-là, puis les Chinois, ils emmènent large, hein, sa planète. Alors le problème dans ce dossier-là, depuis le début, c'est qu'il y a une petite guéguerre, évidemment, entre les Américains et la Chine, puis vous voyez...
Là, il y a du politique. Mais on va y aller sur le légal, ouais, au départ. Donc, les critères, c'est de dire, est-ce que le crime qui lui est reproché aux États-Unis,
ouais,
est-ce que c'est un crime ici? Ben, ça, ça a été analysé.
C'est ce que la Cour d'appel a conclu. Elle a dit oui, effectivement, parce qu'il y avait deux critères à comprendre. D'abord, le premier critère, c'est sûr qu'elle ne pouvait pas le plaider parce qu'il n'y avait pas de danger de peine de mort là où est-ce qu'elle s'en va. Parce qu'au Canada, on n'extrade pas les gens si on s'en va vers un pays, par exemple,
ouais,
où il y a la peine de mort, où il y a quelque chose qui va à l'encontre des lois canadiennes. Alors, on n'extrade pas ces gens-là. Alors, aux États-Unis, ça ne s'applique pas, ce premier critère-là. Deuxième critère, c'était de voir est-ce que cette accusation-là... Parce qu'en fait, ce qu'on lui reproche, cette madame-là, puis vous le savez, là, Huawei, il n'y a pas un qui avait entendu parler de ça, même si un géant chinois avant décembre 2018. Puis Meng Wanzhou, là, qu'on, à ce temps, on prononce très bien, au début, elle s'est fait massacrer son nom, pas à peu près. Là. Alors, maintenant, on sait c'est qui. Puis, évidemment, la charge qu'on lui fait, bon, la juge dit, puis il n'y a pas de surprise, là, que ici au Canada, les charges qu'on lui reproche, c'est d'avoir contrevenu aux lois, ben là, dans ce cas-ci américaines, qui pourraient être les lois canadiennes, parce qu'il y avait un embargo sur l'Iran. Et puis là, on aurait fourni certains biens et services à l'Iran malgré l'embargo et donc contrevenu aux lois américaines. Alors, à un moment donné, lorsque tu es en territoire étranger puis que tu contreviens à une loi, ben tu es passible des poursuites qui sont là. Donc, là, les États-Unis ont dit au Canada, ben vous l'arrêtez à Vancouver puis vous la chipez aux États-Unis parce que nous autres, elle a contrevenu à nos lois puis elle est en territoire ami, c'est-à-dire qu'on a des... Hein, on a un traité de réciprocité avec les États-Unis qui fait en ouais. sorte que lorsque quelqu'un commet une infraction, même s'il n'est pas en territoire américain, s'il est en territoire canadien, et les Américains demandent à ce qu'ils soient transférés dans leur pays pour être jugés, ben, les traités font en sorte. Puis, on n'est pas... Le problème, c'est qu'on est entre l'écorce et l'arbre.
On a la patate chaude.
Ben, on peut pas dire
et non. On n'aurait pas pu dire, regarde, organisez-vous avec vos troubles.
Ben, oui.
Puis on l'a...
Ouais, sauf que là, le best, ça aurait été de la mettre dans un avion rapidement à Vancouver, puis juste la faire sauter de l'autre côté de la frontière, puis dire, excusez, madame, vous êtes trompée l'aéroport, vous avez débarqué au mauvais endroit. Ça aurait réglé le problème. Malheureusement, débarquer à Vancouver, l'arrestation s'est faite là. Alors,
ouais,
là,
mais je veux dire, on n'aurait pas pu dire, nous, on va la carton de chez elle, là, puis les États-Unis s'organiseront.
Ah ouais, c'est ça. Là, vous auriez eu un ami, votre ami Donald, qui est votre grand ami, qui comprend toujours tout ce qu'il veut bien comprendre lui-même. Et là, ça aurait été une tollée épouvantable. Alors, on ne peut pas faire ça. Un, deux, ben, premièrement, les lois canadiennes...
Au final, on est mieux d'être en chicane avec la Chine qu'avec les États-Unis.
Bien, c'est-à-dire que c'est là...
Parce que là, on va être en chicane.
Il est là le problème. Parce qu'on parle toujours de la COVID, hein, ça fait deux mois et demi qu'on en parle, là, depuis à mi-mars, puis même avant. Le problème, là aussi, là, il devient un problème de santé... un problème social aussi. Pourquoi? Parce que on voit que souvent, dans les cas de pandémie, la production mondiale au niveau, par exemple, on a vu là, l'Antonov là, qui a atterri deux fois à Mirabel avec des sarraux, des masques, etc. Bien, plus de la moitié de la production médicale mondiale vient de la Chine. Mmh. Alors, si les Chinois nous coupent le canal, puis que bye-bye l'Antonov à Pékin ou à Shanghai ou je sais pas trop où est-ce qu'ils prennent les produits, puis que là, on peut plus importer des produits chinois, parce que vous savez, la Chine fonctionne pas comme nous autres. Ici, on est un État de droit. Et ici, Mme Wang Zhu a eu droit à tous les traitements légaux qu'elle a des avocats ici. Inquiétez-vous pas, c'est pas de l'aide juridique. Ils ont eu moyen de payer. Mm-hmm. Ils ont quelques milliards dans leur poche. Alors, l'État de droit fait en sorte que il n'y a pas d'intervention. Il y a une intervention qui pourrait être faite une fois que si la Cour suprême se prononce, que je ne serais pas surpris qu'il y ait une demande de fait, mais ça ne règle pas le problème. Parce qu'une fois que le dernier tribunal aura rendu sa décision dans ce dossier-là, et si c'est la Cour suprême du Canada, cette fois-ci, et non de la Colombie-Britannique, bon, il y aurait toujours une possibilité d'intervention ministérielle. C'est des cas bien, 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 bien précis où le ministre canadien pourrait dire, de la justice, pourrait dire non, je renonce à cette extradition pour des motifs autres. Ça pourrait être des motifs, par exemple, humanitaires, des motifs, évidemment, de santé, des choses comme ça. J'avais travaillé il y a longtemps, j'en ai déjà parlé, dans un dossier d'un monsieur de Montréal que peu de gens connaissent, un dénommé Rizzuto, qui avait finalement été extradé aux États-Unis. Et le ministre de la Justice, il y avait eu une demande de fait pour que monsieur ne soit pas extradé. Finalement, il a été extradé, il a été jugé, il a fait son temps là-bas. Il est revenu ici, il est mort quelques mois après, une balle dans la tête. Non, c'est pas vrai. Il est mort de mort naturelle après, ou d'une maladie quelconque. Mais il reste que... Il avait fait tout ce processus judiciaire-là que Mme Wang Zhu a fait présentement, et après fait une demande au ministre de la Justice pour ne pas être extradé, pour certaines raisons, que le ministre a refusé, et il a été extradé et jugé aux États-Unis. Alors, c'est le même principe pour Mme Wang Zhu. Maintenant, est-ce que là, on va se rendre jusque-là? Il n'est pas impossible qu'il y ait des négociations. Puis là, le jeu, il est important parce que une fois que Mme s'en va aux États-Unis, les Chinois ne seront pas contents. Souvenez-vous, là, il y a un an et demi, lorsque c'est arrivé, tu as deux amis Michael là, qui se sont fait arrêter, qui n'avaient rien à voir, puis sont toujours en prison en Chine.
Justement. Ils attendent leur procès.
Là. Ben, écoutez, là, puis pendant ce temps-là, le procès en Chine, oubliez ça, là, ça va être arrangé d'avance, ils vont être condamnés. Alors, la justice chinoise, c'est pas du tout la même chose. C'est la politique qui mène la justice en Chine, alors que si c'est pas le cas, l'État judiciaire est carrément indépendant, il y a pas d'ingérence politique, puis on l'a vu, là, M. Trudeau l'a dit à maintes reprises, c'est pas juste de le dire. Les tribunaux sont carrément indépendants des politiciens et il y a pas d'intervention, alors que les Chinois, eux disent, ben, au premier ministre, t'as rien qu'à dire de la relâcher, puis elle va s'en venir chez nous. Ça marche pas comme ça ici. On est un État de droit, et là, il faut comprendre que la politique et le droit, il faut jongler avec ça.
Dans tous les cas, jamais on va délaisser ce grand principe-là. Donc,
jamais, on l'a acquis chèrement.
On est dans une impasse, dans le sens que c'est quasiment sacrifier les diplomates.
Ben, écoutez,
pour un grand principe. Ben, je vois pas de solution.
Ben, c'est difficile. C'est très difficile parce que la solution qui existe, elle est politique. Alors qu'on a un état de droit juridique, la solution politique viendrait des États-Unis qui, à ce moment-là, pourrait recevoir cette dame-là, une fois qu'elle sera extradée, et ne pas faire un procès, par exemple, parce que aux États-Unis, Donald, il emmène un peu plus large, mais c'est un état de droit aussi, eux autres aussi,
je suis désolé de dire ça, mais j'ai l'impression que cette arrestation-là trempe dans le politique un peu aux États-Unis. Là.
Oui, effectivement. Puis il y a une guéguerre qui se fait, donc il pourrait y avoir un échange à ce moment-là.
Oui, mais ça réglerait le problème. Les États-Unis, contrairement à nous, je pense qu'on est beaucoup... Puis je veux pas dénigrer les États-Unis, mais j'ai l'impression que sur ce principe-là, on est à cheval là-dessus. Est-ce que aux États-Unis... faudrait demander à Luc La Liberté, là, que tout le monde connaît, est-ce qu'aux États-Unis, la cloison entre le judiciaire et le politique est aussi étanche qu'au Canada?
Elle est censée l'être, sauf que de l'intervention politique se fait, dans certains cas, non pas dans le judiciaire, mais dans l'application, par exemple, d'un traité avec un pays étranger, il pourrait y avoir à ce moment-là ce qu'on appelle une remise de peine ou quelque chose qui fait en sorte que...
Moi, autant que c'est un gros problème pour nous, sur des impacts, vous l'avez dit, sur de l'approvisionnement médical sur notre santé...
Ah, ça va jouer!
Autant que c'est une arme, pour ce qui est de Donald Trump, qui est en constante négociation, il est avec un bras de fer avec la Chine.
D'or là-dessus.
J'ai l'impression que ça, c'est y donner un avance, là.
Tout à fait. Mais on n'a pas le choix parce qu'au niveau juridique, puis au niveau politique, si on ne le fait pas, on crée un précédent qui avec les États-Unis qui n'a aucun sens et on ne peut pas. Alors, on est pris entre l'écorce et l'arbre. C'est à suivre parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Puis là, parce qu'on parle de la COVID, là, les conséquences peuvent être désastreuses. Si les Chinois décident d'arrêter de fournir le Canada parce qu'on a dit à Mme Wang Zhu, tu t'en vas de l'autre côté de la frontière, te faire juger aux États-Unis. Il fera pas chaud, là. Tu sais, à un moment donné, là, on va avoir besoin des appareils médicaux, on va avoir besoin des respirateurs, on va avoir besoin des blouses, on va avoir besoin des masques. Et puis là, si les Chinois décident ça, puis c'est pas long, eux autres. Une fois qu'ils décident, il n'y a pas de revenez-y, là. Et puis, ils ont un pouvoir là-dessus. Maintenant, il y a une guéguerre qui va jouer au niveau politique. Faut espérer qu'au niveau politique, les gens entendent raison, puis que si jamais est extradé aux États-Unis, finalement, ils n'iront pas plus loin, puis il y aura peut-être un traité de fer entre les Chinois et les Américains.
Pourquoi ils se forceraient? Ouais.
Ben, c'est là. C'est ça. Là, il y a une guerre froide entre les deux.
Moi, ce que j'ai vu de ce qui est reproché, tu sais, je vois, tu sais, je veux pas pardonner rien, mais je vois pas quelque chose de gros, là. Mais...
Ben, c'est-à-dire que c'est pas gros pour nous, mais c'est gros pour les Américains. Parce que lorsqu'il y a un blocus contre l'Iran, puis que les Chinois arrivent par en arrière, puis font en sorte que le blocus a plus de force contre les Iraniens, ben, les Américains, c'est important pour eux autres.
Oui, ça, mais c'est pas, encore une fois, ça devrait être politique.
Oui, c'est ça, mais là, sauf que ça devient juridique parce qu'il y a eu une infraction de commise aux yeux des Américains. Et c'est là que c'est du juridico-politique. Ça fait tout un... C'est un bon blender, là. Ça fait un bon mélange, puis...
Je vais vous dire... Parce
ça va être important à suivre.
Ceux qui ont atterri du complot parlent souvent de ce genre de choses-là que nous, pour nous, on pense pas que ça existe, puis on voudrait pas que ça existe. Mais ce cas-là, c'est tellement évident.
Il y a toute une joute qui se joue, là.
Ça est épeurant.
Il y a une joute, mais c'est important pour les Américains, c'est important pour les Chinois, puis c'est important pour les Canadiens. Puis nous autres, là-dedans, on pèse pas fort. C'est ça, notre gros problème.
J'ai hâte de voir l'issue. J'espère qu'il y aura des solutions.
Ça va être
à suivre. Merci, Matt Boily.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
C'est annoncé par la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Les tribunaux vont réouvrir le 1er juin. C'est fait. Évidemment, toute la communauté juridique, avocat à la barre, on parle de juridique. Donc, il faut en parler. On ouvre les tribunaux. C'est certain que pour la profession, ça va faire du bien, reprendre nos activités. Mais on sait que ça ne sera plus jamais pareil. Je pense que dans notre domaine, ça nous a fait évoluer. On en parle avec Maître Sharon Otis. Bonjour, Maître Otis.
Oui, bonjour, Maître Bernier.
Bon, c'est annoncé. Comment ça va fonctionner, cette réouverture-là?
Bien, ce qu'on dit, ce que la ministre de la Justice rapporte, c'est que, bien évidemment, ça va se faire de façon graduelle dans les palais de justice du Québec. Ça va se faire, bien évidemment, dans le respect des règles sanitaires de la direction de la santé publique, ça va de soi. En faisant place là, peut-être beaucoup plus à la technologie, parce que pendant le COVID, comme vous le savez, il y a eu les huissiers ont cessé pendant une certaine période de procéder à des significations légales. Ça nous a permis de faire des notifications plus tôt et de transmettre directement nos procédures via une adresse courriel X. Donc ça va demeurer. Je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre ce qu'on mentionne. Ça va permettre aux avocats d'éviter des déplacements pour aller timbrer. Parce que quand on envoie une requête pour les gens, quand on envoie une demande plutôt, on doit aller la timbrer, c'est-à-dire lui donner un numéro de cours. Et ça va pouvoir se faire à distance. On va pouvoir même payer le timbre à distance et notifier à distance, c'est ce que j'en comprends du communiqué. Donc, c'est une belle avancée. Et on se demandait la semaine dernière de quelle façon ça allait se faire et si on allait persévérer dans cette façon de faire-là. Qu'on trouvait quand même bien et qu'on voyait une évolution. Vous vous en rappelez, Maître Bernier?
Oui, mais pour ceux qui ont... La semaine dernière, on en a parlé, ce qu'on disait puis ce qu'on redit, c'est que le système de justice, il y en avait de la paperasse. Beaucoup de choses étaient archaïques. Il n'y a pas si longtemps, on utilisait des fax encore, ça veut tout dire. Beaucoup de papiers à déposer, beaucoup de frais pour des clients. Et là, cette pandémie-là nous a fait évoluer à grand V. Là. Des fois, quand on est forcé, c'est là qu'on n'a pas le choix de changer. Ça a été fait. Mais Maître Otis, là, on sent que la ministre veut continuer dans cette voie-là. Là.
Oui, elle veut continuer et je pense que elle a dans l'optique, c'était une juriste à la base, donc elle comprend très bien le fonctionnement, vous comprenez, des tribunaux. C'est-à-dire que tous les procès qui étaient fixés entre la date fatidique, je crois, de mémoire du 13 mars, là où est-ce qu'on a déclaré la pandémie au Québec, à tout le moins, aller jusqu'au 1er juin, tous ces procès-là, bien évidemment, ont été, à part pour les mesures d'urgence, ont été annulés. Donc, je pense qu'il veut reprendre le retard parce que, bien évidemment, ces dossiers-là, je pense que ça va de soi qu'ils doivent passer en priorité, qu'ils doivent passer parce que, théoriquement, ils auraient déjà possiblement leur jugement en main.
Ouais.
On sait qu'un juge a 6 mois quand même pour rendre une décision, mais fort possible qu'il y aurait déjà des décisions. Donc, je pense qu'on veut faire en sorte qu'il y ait aussi des salles d'audience virtuelles pour éviter des déplacements. Mais on mentionne bien lorsque c'est possible de le faire.
Ouais.
C'est-à-dire que ce n'est pas tous les dossiers, vous comprenez, qui permettent cette tenue-là. Et les palais vont de justice vont adapter aussi les nouvelles normes sanitaires, les micros. Lorsqu'on parle, vous comprenez, quand on plaide, etc., on est proche des micros pour les enregistrements, les barres d'audio. Donc, ça va être désinfecté. Il y aura une rigueur au niveau là de la sanitation. Et je pense que ce renouveau, si on peut dire ça comme ça, ce nouveau départ a été longuement réfléchi avec les bonnes personnes, les personnes qui, je pense, sont sur le terrain, voient de quelle façon les tribunaux étaient déjà embourbés, disons-le.
Oui.
Je pense que cette nouvelle façon de s'ouvrir aux nouvelles technologies va faire en sorte d'avancer le processus pour les gens. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que, oui. Oui,
donc, Maître Otis, on parle ici de... Parce qu'on sait, là, ça reprend, c'était déjà embourbé. Moi, ça me fait peur que ça soit encore pire, que ça soit autant en criminel qu'en civil. Mais là, ce que je comprends du discours, c'est, bon, cette évolution-là rapide, obligée, par les technologies. Et là, on semble dire que les technologies nous aideront à passer au travers. Les technologies à l'aide de la rapidité des tribunaux. C'est ce que je comprends dans votre discours, mais est-ce que vous y croyez à ça, Maître Otis? Pensez-vous qu'on va aller plus vite parce qu'on utilise plus de technologies?
Bien, je ne sais pas si on va aller plus vite parce qu'au départ, vous comprenez qu'il faut reprendre le retard qu'on a pris. OK?
Oui.
Donc, laissons-nous une période tampon pour pouvoir absorber ce manque-là à gagner. Mais oui, je pense que ça va aller plus vite et je pense surtout que ce sera moins coûteux pour nos clients parce que, bien évidemment, lorsque le montant du timbre judiciaire va demeurer le même. Cependant, on n'aura pas besoin de transmettre le tout ou de faire déposer le tout, soit par notre huissier ou par nous-mêmes. Donc, ce sera moins coûteux, ça va aller plus vite, les ouvertures de dossier. Moi, j'y crois. Je pense qu'on aura des résultats positifs, mais il y aura une période d'adaptation. C'est certain là qu'il va falloir le temps de reprendre le retard et de mettre tout ça en branle. Parce que vous comprenez, je pense qu'au fil du temps, il y aura des modifications. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que telle autre avenue peut être envisagée? Je pense que le communiqué du bâtonnier, la semaine dernière, mentionnait que, bien évidemment, ils vont devoir s'adapter comme toute nouvelle situation. Et je pense comme dans toute nouvelle, dans toutes les sphères, vous comprenez, il n'y a pas juste le domaine juridique qui a eu et qui devra s'adapter. Je pense que ça touche beaucoup d'industries, de professions, etc.
Mm-hmm. Non, c'est bienvenu. Sauf qu'un auditeur qui m'a écrit, il disait, tu sais, pourquoi on sent ça? Bon, on veut un mouvement, on veut la technologie, on reconnaît tous que tout pourrait aller plus rondement si on reste pas dans l'archaïque, dans la paperasse. On est à notre ère en 2020. Mais la question certaines personnes se posent en ayant payé des gros frais juridiques à des avocats. Pourquoi ça a pris la COVID pour faire ça?
Pourquoi ça a pris la COVID? Vous comprenez, des fois, faut revoir ses méthodes. Et c'est dans des situations de crise, je pense, qu'on voit des fois qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et les problématiques engendrées, les délais engendrés, parce que les gens se sont... Le bâtonnier, ainsi que son équipe, la directrice du Barreau de Québec, tout ce beau monde-là se sont concertés. Donc, je pense que oui, ça va faciliter les choses et oui, je pense que ça va changer. Pourquoi on a attendu qu'il arrive un événement comme ça? Vous comprenez, on n'est pas à l'abri, le cas de procédure civile, au même titre, vous comprenez, Maître Bernier, s'il y avait une guerre demain matin, là, le cas ne pourrait pas nécessairement pallier à tout. Donc, il faut s'adapter et je pense que l'adaptation, ils ont tenu compte de l'air dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que on a nos iPhones greffés dans la main, hein, ouais. Donc pour ce n'est pas par plaisir, mais c'est bien un outil de travail. Je pense qu'ils ont considéré tout ça, qu'ils ont considéré maintenant les nouvelles façons de notifier les procédures entre procureurs, entre avocats, pardon, et aussi les protocoles, l'ouverture sur les conférences de règlement amiable, etc. On change, la société change, mm-hmm. et la pratique aussi, et je pense qu'ils sont en plein sur, ils sont pas encore sur leur X en disant que
mais
ça fonctionne.
On a quand même une leçon, Maître Otis, à retirer. On est réactif, pareil. Aux grands mots, les grands moyens. Et je regarde, c'est pour dire qu'il y a du positif dans le négatif. Et moi, dans le judiciaire, je vois ça positivement. Ça fait des années que je le dis qu'il faut faire un virage. Et là, on le fait. Et en tant qu'analyste, surtout, j'ai vécu l'ère, Maître Otis, vous connaissez l'arrêt Jordan.
Oui.
Donc qui a été aussi une grande révolution, ce qui faisait qu'en criminel, il y avait des délais qui étaient pas normaux. Et là, les tribunaux, au style COVID, ils nous ont forcés à évoluer. Puis avant la pandémie, c'était surprenant de voir comment le système avait repris le dessus sur ces délais-là. Donc, évidemment...
Je pense sincèrement que les juges ainsi que les gens, tous les auxiliaires de justice, les avocats, je pense qu'on était conscients de certaines lacunes. Je pense qu'avec cette ministre-là de la justice, moi je trouve qu'elle fait un très beau travail. Je pense que elle va nous mener quelque chose à bien, c'est certain.
Oui, je suis d'accord. Le droit, c'est logique. Des fois, il ne faut pas trop s'enfarger dans toute la procédurette que j'appelle. Des fois, en droit, on traîne un gros boulet de dire il faut que ce soit comme ça, mais c'est la preuve bon, qu'il y a moyen d'évoluer. On le voit.
Et il faut être, faut être ouvert aux nouvelles tendances aussi, aux nouvelles pratiques. Donc, c'est certain que déjà là, le cas de changer le code de procédure civile le 1er janvier 2016, ça fait beaucoup de modifications.
Oui.
Je ne suis pas nécessairement en accord totalité, disons-le.
Mais
alors,
disons,
cette réforme-là va pallier.
Oui, puis disons qu'on peut tout de suite annoncer qu'il y aura des changements après cette pandémie-là pour tout remettre ça à l'ordre là, sur les nouvelles règles. Bon, merci, Maître Otis. Très éclairant.
Ça fait plaisir.
Okay, bonne rentrée. Une deuxième rentrée, 1er juin.
Je profite de mes dernières journées avant que l'apocalypse ne commence le 1er juin.
Merci, la bonne journée. Bye-bye.
Merci, vous aussi. Au revoir.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Avocat à la barre répond à vos questions, les questions du public, avec Maître Jean-Paul Boily. Et bonjour, Maître Boily.
Oui.
Bonjour.
Toujours, toujours au poste, à distance, toujours.
Oui, on est
au
prudent.
Frais de cube.
Et il y en a une qui est vraiment intéressante, la première, une question.
Bon, c'est toujours intéressante.
Oui, toujours. Mais celle-là, on peut en parler. Jean-Michel qui nous a écrit sur le Facebook, il veut savoir si légalement on peut, en cette période de grande nécessité sanitaire, empêcher le gouvernement de financer à la hauteur de 200 millions de dollars le Cirque du Soleil.
Cirque
du Soleil.
Aïe aïe, ça fait mal. Mais c'est 200 millions, mais contentez-vous, M. Jean-Michel, c'est juste 200 millions US. Hein. Ça fait à peu près 270 millions canadiens, dans un gros pays. Écoutez, ouais. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce que... Sa question, c'est de savoir, est-ce que on peut l'empêcher, je comprends, de façon légale, là, lorsque le gouvernement veut faire un geste que quelqu'un veut empêcher, on peut toujours... Il y a des procédures qui existent. Hein. On appelle ça des procédures extraordinaires dans le code de procédure civile. Si on veut obliger, par exemple, un organisme gouvernemental de faire ou de ne pas faire quelque chose, on appelle ça un bref de mandamus. Hein. C'est très rare que c'est utilisé, mais ça fait partie des recours extraordinaires, comme les injonctions en sont aussi, et d'autres recours de cette nature. Maintenant, là, il faut comprendre, même si on voulait prendre une procédure contre le gouvernement, il y a tous les aspects financiers que on contrôle pas. On a vu M. Fitzgibbon, là, cette semaine, dire aussi, M. Legault également, dire, écoutez, on va faire un prêt à ces gens-là. Là, il y a un problème d'éthique aussi. Là, on n'entrera pas trop là-dedans. Mais les propriétaires du Cirque du Soleil, l'ancien propriétaire...
M. Bon, on va en parler après, ouais. Mais d'entrée de jeu, là, je veux dire, le gouvernement peut dépenser, ce serait pas faisable un recours comme ça, là, même si on est en pandémie. Le gouvernement peut dépenser, puis c'est lié à la pandémie de toute façon.
C'est pour sauver des jobs, mais là, maintenant, à quoi l'argent va servir, on ne le sait pas.
Le gouvernement a le pouvoir de dépenser là, avant qu'un citoyen se lève et intervienne. Pis, écoutez, c'est du politique. Là. C'est le juridique n'ira pas dire aux politiques quoi faire.
Non, mais le juridique ne s'en mêle pas, mais le citoyen, Jean-Michel, il peut s'en mêler, lui, à la prochaine élection. Dire, moi, le gouvernement, il a fait des choses que je n'aime pas, je vais le changer. Ouais. Mais présentement, aller juridiquement essayer de contrecarrer en disant... 270 millions canadiens, on pourrait-tu le mettre? J'ai vu un article, par exemple, cette semaine dans le journal, où on a dit, écoutez, ce montant-là, pour les 140 quelque mille ou à peu près gens qui sont dans le domaine de la culture et des arts au Québec, ça réglerait tous les problèmes financiers de ces gens-là. Bon, c'est un choix politique à faire. Maintenant, est-ce que un fleuron comme ça, québécois, qui allait bien, puis là, on parlait de M. Laliberté, là, vous savez, quand vous enlevez...
Parlons-en, ben oui, M. Mais... Laliberté. Guy Laliberté a rendu ce cirque-là là, célèbre.
Moi, j'ai vu sa rue Saint-Jean à 19 ans avec il appelait ça les échassiers de Baie-Saint-Paul. Ouais. J'ai vu avec son grand nez se promener puis à faire le bouffon là-dessus. Écoutez, il est parti de rien.
Il a amené ça loin. Ouais. Il a fait de l'argent.
Des milliards.
Parce qu'il est devenu milliardaire.
Lune rouge.
Ouais. Et ce, avant de le vendre à gros prix. Quand il l'a vendu,
il y a 5 ans, il restait 10 %.
Oui, mais quand il l'a vendu, ça allait très bien.
Ah, ça allait super bien. Il a vendu ça des milliards.
Et là, ce gars-là vend ça.
C'est une transaction privée.
C'est aux Chinois particuliers.
Oui, fonds chinois, fonds américains, qui a des ramifications dans les paradis fiscaux.
Mais là, avant le COVID, ça allait pas bien.
Bien, ça allait moins bien, mais il a vendu un autre 10 % qui lui restait à la Caisse de dépôt du
Québec.
Juste avant, au mois de février, puis ça, c'est le timing qui veut ça.
Lui, il s'en tire bien, mais c'est quand même impressionnant. J'en profite la question pour parler de ça. C'est même pas juridique. C'est quand même impressionnant. Quelqu'un mène un cirque comme ça, le vend... Puis ça va plus bien, là. C'est
un drôle d'hasard. Ça s'est mis à aller moins bien aller partir du moment où il a commencé à vendre.
C'est que l'entrepreneur, c'était son bébé.
Ben oui, puis vous savez, l'âme, on dit souvent, écoutez, moi j'ai beau chanter comme je peux les chansons de Céline Dion, j'ai pas la voix de Céline Dion, j'ai pas l'émotion de Céline Dion, puis je serai jamais Céline Dion.
L'âme de l'entreprise.
L'entreprise, surtout lorsque c'est une entreprise de composition comme ça, on parle de Robert Lepage et bien d'autres, là. C'est des êtres extraordinaires qui ont ça. Et puis écoutez, là, Guy Lafleur est bon au hockey, moi, quand même, j'aurais été bon. J'aurais jamais été comme Maurice Richard ou Guy Lafleur. Alors, c'est des êtres exceptionnels.
On s'entend que les dirigeants ont pris des bonnes décisions pour rendre ça si rentable.
Ouais.
On s'entend que ça a été vendu et que si c'est allé dans le gouffre, qu'il y a eu des mauvaises décisions.
Probablement.
Et là, Guy Laliberté serait intéressé à racheter.
Ben oui, mais là, à quel prix? Je sais pas comment.
Il pourrait racheter son bébé. Lui, tout ce qu'il a besoin, c'est du nom.
Ben, ce qu'il a besoin, oui, puis effectivement...
Puis après ça, il peut faire des marques d'or en rachetant
ça. Ben oui et non, parce que là, avec la pandémie, on ne sait pas. D'abord, il n'y a pas d'activité ou à peu près pas du Cirque du Soleil à travers le monde. Donc, il y a tout ce contexte-là. Mais lui non plus, il n'est pas cave à temps plein, Guy Laliberté. Alors, ce qu'il va faire, il va dire, ben le prix qui valait, comme les actions de Bombardier, il valait 21 $ il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 50 sous. Alors, il va faire le même principe, le même calcul. Il va dire, écoutez, au moment où j'ai vendu, oui, ça valait des milliards. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça vaut peut-être quelques millions, pas plus que ça. Est-ce que le gouvernement fait un bon placement? Je le sais pas, j'ai pas vu le prêt, mais normalement, ces prêts-là sont garantis, c'est-à-dire on va chercher des garanties sur, par exemple, ça pourrait être sur les marques de commerce, sur le nom, etc., etc. Est-ce que ça vaut le 270 millions canadiens? Ça, c'est une autre bonne question. J'espère, évidemment, le ministre Fitzgibbon...
Là, ce qu'on se rend compte, c'est que ça vaut quoi? Cirque du Soleil, là, je comprends en pandémie, là, mais on s'entend que tout le monde était surpris de voir un Cirque du Soleil qui n'est pas capable de traverser cette crise-là.
Le fleuron québécois qui plante, là, c'est pas le fun de voir un voilier couler dans le fond.
Mais dans le sens, on se rend compte que ça vaut de quoi quand c'est entre de bonnes mains.
Ben, c'est ça, il y a une question de
pourquoi ça a fait des milliards, puis là, c'est au bord du couvre avant la pandémie?
Vous savez, il y a des choses qui arrivent comme ça. Si vous êtes au bon endroit au bon moment et que, excusez-moi l'expression, vous êtes le goût du jour, vous pognez, comme on dit, ben vous allez vendre votre spectacle. Si vous pognez pas, ben ça marche pas. Puis c'est dans ce temps-là qu'on perd tous nos actifs et on perd toutes les possibilités. Alors, vous avez des mondiaux comme Disney qui ont très bien fonctionné. Puis là, pendant la pandémie, il n'y a personne qui va à Disney. Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas non plus. Est-ce que le gouvernement américain va les aider aussi? Il y a tout le secteur culturel. C'est compliqué. Et là, ben, ça va être à suivre, mais empêcher le gouvernement de répondre à la question, on a fait le tour là, de Jean-Michel, on ne pourra pas les empêcher. Je ne penserai pas. Maintenant, on espère juste que le gouvernement fait ça de façon judicieuse. Et puis, il y a des fonctionnaires qui sont payés pour essayer que les placements, parce que souvent, c'est fait par les fonds gouvernementaux ou la Caisse de dépôt ou Investissement Québec. Alors, ces gens-là, généralement, vont chercher des garanties, évidemment. Il y a des choses, des fois, qui se font. On a vu des placements dans Bombardier qui n'ont pas été très bons, la Cicérise, etc. C'est pas toujours excellent, mais il faut souhaiter que ça aille bien.
Oui, il faut souhaiter, mais je veux dire, on va passer à une autre question, mais quand même, c'est sûr que...
C'est discutable.
C'est discutable, puis on se demande, bon, là, mais moi, je pense que c'est un fleuron, il faut l'aider, mais j'espère seulement qu'on va chercher bonne garantie.
On se plantera pas.
J'espère qu'il y aura une sorte de pouvoir de regarder un peu qu'est-ce qui se fait.
On le souhaite.
À suivre. Bon, prochaine question, Nathalie, elle, qui nous a écrit de Saint-Sauveur, et veut savoir si elle peut obliger son propriétaire d'immeuble d'obtenir la subvention commerciale pour les loyers. Et comment elle peut le faire?
Moi, j'avais déjà regardé pour des clients. Je suis retourné quand j'ai vu la question. Je suis retourné voir là, sur le site du gouvernement du Canada. C'est-à-dire, il faut comprendre. Sur le site, il est fortement suggéré aux propriétaires d'immeubles, parce que c'est eux qui doivent faire la demande. Hein. Ce ne sont pas les locataires, ce sont les propriétaires d'immeubles. Et lorsque vous avez... j'ai pas vu de moyens coercitifs, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation pour le propriétaire. Sauf que sur le site, lorsqu'on va sur le site du gouvernement de la COVID, en fait, du gouvernement du Canada pour les aides là, qui sont octroyées aux entreprises et aux commerçants, c'est indiqué tous les motifs pour lesquels un propriétaire d'immeuble a tout intérêt à le faire. Et entre autres, là-dedans, ce qui est indiqué, c'est de dire, écoutez, vous devriez le faire parce qu'on est en situation de crise. Et si vous voulez que votre locataire reste un bon locataire et soit capable de vous payer pour l'avenir, qu'il ne fasse pas faillite, etc., etc., on parle surtout, par exemple, dans le domaine de la restauration et ben, dans bien d'autres domaines. Si vous ne le faites pas, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, bien, écoutez, si votre locataire ne vous paye pas votre loyer, vous allez avoir des frais, bon, on ne parle pas pour nous autres des avocats, là, mais vous allez avoir des frais de récupération, donc des frais judiciaires, des frais juridiques à payer. Vous allez aussi avoir des possibilités à ce que votre locataire ne soit plus en moyen de vous payer, donc vous soyez obligé de l'évincer, encore là des frais. Retrouver un autre locataire, ce qui n'est pas toujours évident, qui peut prendre des mois, donc encore perdre des montants. Alors, le gouvernement, parce que moi, je me disais, s'il n'y a pas de moyens coercitifs, comment on peut obliger quelqu'un, un propriétaire d'immeuble, hein, il y en a qui sont propriétaires d'immeubles qui ne veulent pas perdre, parce que là, le montant du prêt, qui va être sous forme de subvention si vous respectez le prêt, bien, c'est 50% que vous allez recevoir votre loyer. Madame, vous devez payer à titre de locataire 25% votre loyer, puis votre propriétaire doit assumer l'autre 25%. Puis on dit, vous ne devez pas le réclamer par après. Donc, si les gens respectent cette règle-là, ce que le gouvernement mise là-dessus, puis encore là, je répète, c'est pas obligatoire pour les propriétaires d'immeubles, parce qu'eux aussi ont une hypothèque à payer, ils ont des assurances à payer, ils ont des taxes à payer, etc. Et dans le loyer, évidemment, il faut calculer tout le loyer, mais si ce qu'on dit aux propriétaires, c'est que si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre pas mal plus que 25 % de votre loyer pendant 4 mois, parce que c'est ça que la subvention fait. Alors, depuis le mois de mars, on dit mars, avril, mai et juin, on est prêt, puis ça pourra être extensionné. On verra qu'est-ce qui va se passer avec les reprises qui sont annoncées prochainement, là. Mais si on peut, les gens disent aux propriétaires, faites la demande et réajustez le loyer en conséquence. Alors, madame, vous dites à votre propriétaire, allez voir le site du gouvernement ou envoyez le lien. Moi, j'ai des clients que j'aurais conseillé de faire ça. Vous envoyez le lien à votre propriétaire, puis le propriétaire va faire la demande. Alors, si le propriétaire est moins intelligent, il va faire la demande parce qu'il va aller voir sur le site tout ce qu'on donne comme recommandation, puis c'est le gros bon sens. Alors, allez-y, madame, mais c'est pas vous qui allez faire la demande, c'est votre propriétaire.
Merci, Maître Boily. On se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour nous aussi pour l'émission Avocat à la barre cette semaine. Et on vous invite à poser vos questions toujours. On y répond. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.